Vous avez vu une France qui gagne dans un monde qui bouge. Mesdames, messieurs, bonjour.
Bonjour et bienvenue. Comme un bruit qui court, aujourd'hui en direct et en public à la fête de l'humanité.
Charlotte Perry.
Avec nous cet après-midi, deux invités, Franck Lepage, bonjour.
Antoine Chao.
Et Bernard Luba et la compagnie Luba pour une émission savante et populaire.
C'est la 70e édition de la fête de l'Huma. Et ouais, il fallait qu'on soit là. 450 stands, une grosse centaine de débats.
Antoine Chao.
80 pays représentés, des concerts à tout va. Enfin, 70 hectares de fêtes et de réflexions pour une riposte politique à gauche.
Et puisque savoir, c'est pouvoir, nous nous intéresserons aujourd'hui à l'éducation populaire.
Qui vont-ils ?
Avec des reportages à feu à son, des conférenciers gesticulants et jazz qu'attrapant. Voilà, comme un bruit qui court.
Antoine Chao. Antoine Chao.
Charlotte Perry.
Qui vont-ils ?
Hop de bat de bat, c'est l'homme de bain, mais elle s'aime de main, là là, oh, rumba. Rumba, c'est pas ça, ya ya ya. Chantez avec nous, chantez avec nous. Mais les deux, vous êtes sur la skin, 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 vous êtes sur la skin,
un bruit qui court, effectivement, en public à la fête de l'Huma, avec nos amis de la compagnie Luba qui sont venus. Alors Bernard Luba, Fabrice Vieira, les jeunes pousses Jaime Jules et les copains de Papanoche qui viennent de descendre de scène et qui sont venus en appoint pour nous accompagner musicalement sur cette émission consacrée à l'éducation populaire. Et il faut savoir que bon, Bernard et la compagnie Luba sont des adeptes pratiquants de l'éducation populaire par la musique depuis des années. Donc on pourra en parler avec Bernard dans quelques instants, qui va nous rejoindre sur le plateau. Mais pour l'instant, Franck Lepage est là.
Et Franck Lepage, vous allez nous parler des conférences gesticulées. Mais allez-y, parlez-nous-en.
Non, vas-y, on fera ça après.
On fera ça après parce que Bon, on a compris que vous étiez quelqu'un d'engagé, que vous étiez là pour faire accès à que le savoir populaire soit réapproprié par tout un chacun. Et savoir, c'est pouvoir, je disais en introduction. Moi, il se trouve qu'il y a 3 semaines de ça, je dois vous le confier maintenant, j'étais pas à la fête de l'humain, j'étais à la fête du MEDEF.
Non.
Pour l'université populaire, si. Non, 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 je suis pas d'accord, parce que j'ai appris des choses très intéressantes. Certes, ici, à la fête de l'humain, des conversations très intéressantes sont menées, mais là-bas, j'ai parlé, par exemple, comment faire vivre ensemble management de l'innovation et excellence opérationnelle. Wow. Et c'est vraiment dans ce souci partagé d'une radio publique, de convergence des luttes, que je vous propose ce petit reportage où j'ai demandé aux patrons ce qu'ils avaient à vous dire à vous ici à la fête de l'Huma. Alors voilà, la fête du MEDEF parle à la fête de l'Huma.
Changer les mentalités, aider les entreprises. Le poids de l'État continue à augmenter, les taxes continuent à augmenter, les charges sociales, la réglementation continue à se complexifier et le chômage augmente.
Donc plus de flexibilité, c'est une des exigences de beaucoup de patrons ici.
Exact, exact.
Et moins de fiscalité.
Et puis après, vous avez la problématique du marché du travail.
Je crois que de toute façon, tout ce qui est simplification du droit du travail, bien évidemment, allègement des charges sont des priorités absolues.
On a vu encore Monsieur Gattaz qui passe et qui repasse et qui est sollicité de toutes parts. C'est l'allée centrale de l'Université d'été du MEDEF. À ma droite, BFM Business, les studios LCI, mieux que savoir comprendre, la chaîne business américaine CNBC. Et puis là, le bureau des adhérents, où on se bouscule, à vrai dire, pour aller adhérer au MEDEF et son nouveau slogan « La France qui gagne dans un monde qui bouge ».
C'est la France qui gagne, oui, c'est le mot d'ordre aujourd'hui. Il est vrai qu'il y a eu des propos qui vont dans le bon sens. Quand on nous dit qu'on aime l'entreprise, évidemment, ça nous fait plaisir. On est dans un pays qui est difficile, donc on a envie d'y croire, donc on veut être joyeux. On nous annonce des choses et on nous dit des choses qu'on a envie d'entendre, donc évidemment, on est heureux. Libérer l'entreprise, libérer la croissance, libérer les emplois, flexibiliser les charges, etc. Ça, vous allez me dire, ça fait 10 ans que j'entends le MEDEF dire la même chose. Ça fait 30 ans même, je dirais. Mais c'est normal, parce que ça fait 30 ans qu'on a des promesses et 30 ans que rien ne se passe.
Une France qui gagne dans un monde qui bouge.
Les freins, premièrement, c'est le niveau des charges sociales, il n'y a pas de mystère. Vous ne pouvez pas faire courir quelqu'un en compétition avec un sac de plus en plus lourd.
Je suis en contact avec les Nord-Américains qui ne comprennent absolument pas notre code de travail.
Plus souple, plus souple. Il y a beaucoup de gens qui pourraient embaucher si c'était un petit peu plus souple.
Aider les entreprises, c'est d'abord et avant tout aider les Français plus que d'aider les patrons.
Changer les mentalités.
Et moi,
aider les entreprises.
J'aime l'entreprise.
Qu'est-ce qu'on va dire, par exemple, à ceux qui seront à la fête de l'Huma dans 15 jours?
Qu'est-ce qu'on va leur dire? Mais à la fête de l'Huma, il y a des gens aussi qui se rendent compte que l'entreprise est le modèle qu'il faut suivre. Donc il faut garder la même ligne. Et eux-mêmes sont d'accord. Il faut le faire.
Là, ça risque de grincer des dents, dans la gauche en général.
Oui, mais c'est pas grave, ça s'appelle du courage. C'est ce que nous, on a tous les jours au quotidien en tant que chef d'entreprise, du courage. Voilà.
Très bien, merci beaucoup pour ce cours de motivation.
Ah bah merci, c'est gentil. C'est ce que je fais tous les jours dans mon entreprise avec mes salariés.
Je repars avec la gagne.
J'ai tout plein d'amis au MEDEF. Ma religion, c'est le BNF.
Et je découvre un public de la fête de l'Huma, enthousiasme après ces paroles. Vous avez entendu mes nouveaux amis. Un peu de courage, chers auditeurs, chers membres du public. Gardez la ligne, nous dit le comité central du MEDEF. Alors c'est vrai qu'il y a une standing ovation de notre nouveau Premier ministre qui disait le nouveau mot d'ordre, aimer les entreprises, aider les entreprises. Et après la standing ovation de Manuel Valls, je dois vous avouer que j'ai été gagné par cet enthousiasme. Il y avait comme un air de love story.
La finance, hein.
Et les télécoms?
Pasteur G.
Assurance, courtage.
Moi, je suis prestataire de services.
Je lance une start-up.
J'ai une agence qui digitalise les points de vente en concevant de nouvelles installations interactives pour faire vivre une expérience au public.
C'est passionnant.
Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, merci pour votre accueil.
Là, on est vraiment dans une dynamique de politique de l'offre, quoi. Et je crois que là, on a bien choisi.
Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, la France a besoin de vous.
Hein, avant, c'était toujours un peu schizophrène parce qu'on faisait l'un, l'autre.
C'est ce qu'on appelle les sociodémocrates, quoi.
Là, on est parti dans le social-libéralisme. Là, le social-libéral, c'est différent.
Ça, c'est un son de cloche qu'on entend mieux ici, quand même.
Oui, on l'entend bien ici parce qu'on estime que pour nous, aujourd'hui, c'est la seule solution, quoi. Si on veut s'en sortir, il n'y a pas d'alternative.
Il est d'usage d'opposer la gauche et le monde de l'entreprise.
Mais qu'est-ce que vous voulez tous les... on était le seul pays à avoir regardé un parti socialiste aussi ringard que notre parti communiste. Et je dirais que les médias, y compris France Inter, ont peut-être joué un rôle de diaboliser la mondialisation, alors qu'elle peut être heureuse. Globalement, le nombre de gens sortis de la pauvreté grâce à la mondialisation est quand même colossal. Donc il y a tout un retard mental. C'est pas de leur faute. C'est qu'ils ont été embrigadés dans une idéologie dont ils ont du mal à faire le deuil.
Et c'est vrai qu'il y a eu le tournant, là. Comme vous dites, l'image du coming out est pas mal. On a un gouvernement socialiste, mais qui va faire, enfin, un programme qui sied au MEDEF, jusqu'à présent.
Bien sûr, pour vous que ça dure. Hein. Donc j'espère que la droite et le centre ne seront pas assez bêtes pour ne pas soutenir des idées qui sont les leurs.
Les idées de droite ou de gauche, je comprends pas.
Non, j'espère que la droite et le centre ne seront pas assez bêtes pour ne pas soutenir des idées de bon sens qu'ils partagent.
Avec les socialistes.
Oui.
D'accord.
Comprenez. Il faut avoir aussi un sens de l'intérêt général, jamais l'oublier.
1, 2, 1, 2, 1, 2.
Moi, je suis Patrick Carré, donc je suis membre du bureau national du MEDEF et président du comité des régions.
De coup, ce slogan tombe parfaitement, quoi. Une France qui gagne dans un monde qui bouge, c'est là le MEDEF qui gagne, les gagnants sont là.
Bien sûr, mais les gagnants, ce seront les entreprises, ce seront l'emploi, ce seront la France, quoi. C'est-à-dire que pour gagner, il faut bouger.
Et alors comment on fait pour devenir adhérent? Parce que est-ce que moi, je peux devenir adhérent du MEDEF? Moi aussi, je veux faire partie des winners.
Des winners. On accueille tout le monde, tous les gens de bonne volonté, pour continuer à avancer.
Très bien. Je vous remercie, puis je vous laisse filer. À très bientôt au MEDEF. Alors moi, j'ai choisi mon camp. Au revoir.
Et moi, j'aime l'entreprise. J'aime l'entreprise. Sans entreprise, il n'y a pas de vie.
Bon, je dois vous faire mon mea culpa. Je me suis un tout petit peu emporté. Je me suis laissé emporter par l'enthousiasme. Alors, j'ai besoin que vous me disiez, Franck Lepage, est-ce que après ça, je dois tout de suite faire mon dodo critique et aller en camp de rééducation? Ou est-ce que l'éducation populaire et votre conférence que vous ferez ce soir à la fête de l'UMA peut faire quelque chose pour moi?
Ça va tout changer. Je suis d'accord avec le slogan du MEDEF, il faut changer les mentalités. Alors donc, on va changer les mentalités à gauche d'abord, d'accord? Et donc, on va arrêter de penser avec les mots du capital, on va arrêter de penser avec les mots de la droite, on va arrêter de penser avec les mots du patronat, d'accord? On va arrêter le gag de l'emploi, d'accord? Ça fait 40 ans qu'ils nous font le coup de la crise et de l'emploi. Alors, je voudrais ici que quelqu'un me dise qu'est-ce que c'est que cette crise? Dans le cinquième pays le plus riche du monde, la France, cinquième puissance mondiale, d'accord, qui a doublé son PIB en 17 ans. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en 17 ans, il y a deux fois plus de richesses qui se promènent en France, d'accord. La France dégueule de richesses, d'accord. Donc ils nous font le coup de la crise, de l'austérité.
De l'effort nécessaire,
etc. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette blague? Il faut qu'on arrête à gauche de répercuter ça. Il faut qu'on arrête de dire qu'il y a une crise. S'il y a une crise, c'est une crise de répartition de cette richesse, d'accord. C'est pas un manque de richesse. Le gag de l'emploi, ils n'arrêtent pas. Vous les écoutez tous. Ils veulent redresser la France. La France est en déclin, la France se casse la gueule. C'est la cinquième puissance économique du monde. Alors donc, changer les mentalités, ça veut dire déjà gagner la bataille du langage. D'accord ? Il faut qu'on reprenne notre langage. Il faut qu'on arrête de se faire avoir. Et ça, t'as pas besoin d'aller en camp de rééducation.
Ah.
D'accord ? Parce que nous savons tous ça. Tous les gens là qui nous regardent, là, il y a une centaine de personnes en face de nous. Bonjour.
Ici à la fête de l'humain, oui.
Ils savent ça. Il n'y a pas besoin de faire de la... d'instruire politiquement. Enfin, je veux dire, nous savons ça. Intuitivement, nous savons. Nous savons qu'on se fout de nous quand on nous parle de crise, qu'on se fout de nous quand on nous parle de gagner la bataille de l'emploi. Et puis la réduction des charges sociales, bon, ça c'est quand même extraordinaire. Enfin, je veux dire, ils veulent détruire le modèle qui a été mis en place en 1945. Vous savez pourquoi? C'est ce qu'on va expliquer ce soir avec le réseau salariat. Parce qu'en 1945, on a fait un truc qu'on n'a pas tout de suite compris. On a posé une bombe à l'intérieur du capitalisme. Et cette bombe, il n'y a plus qu'à trouver la petite allumette pour l'allumer. Cette bombe, c'est la cotisation. C'est-à-dire qu'on a sorti de l'emploi des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de travailleurs qui ne sont plus à l'emploi. Toute la fonction hospitalière, elle n'a pas d'employeur, d'accord? Ça, c'est les communistes qui ont mis ça en place avec Annie Salopard en 81. Je veux dire, les chômeurs sont des gens qui touchent un salaire. Les retraités sont des gens qui travaillent, d'accord? Simplement, ils ne sont plus à l'emploi. Et donc, la grosse difficulté qu'on va avoir à gauche, c'est de convaincre la CGT désormais de manifester contre l'emploi. Ça, je reconnais que ça ne va pas être facile. Non, non, non! non au plein emploi. Ça va prendre un petit peu de temps, si vous voulez. C'est là on va avoir besoin d'un peu d'éducation populaire. Mais cette éducation populaire, ça va simplement consister à s'appuyer sur ce que nous savons tous déjà.
Alors, Franck Lepage, éducation populaire, justement, ça tombe bien parce qu'ici, on est dans l'atelier Radio France Info, donc qui font de l'initiation à la radio. Alors, on a détourné un peu ce magnifique outil hein, qui est cet atelier de Radio France Info, donc où il y a effectivement un vrai souci d'initiation à la radio, et c'est très important. Mais donc, on est venu avec, donc, comme un bruit court, et on a proposé aux jeunes, donc là, en l'occurrence, c'était hier, et des jeunes du lycée Joséphine Baker de Saint-Ouen, de venir visiter la fête, donc aller dans les stands et essayer de comprendre qu'est-ce que c'était que cette fête populaire, cette fête de l'humanité. Donc on va partir là quelques instants, c'est un atelier radio, c'est de l'éducation populaire effectivement par la radio, parce que ce média est assez exceptionnel justement pour faire comprendre aux jeunes et aux moins jeunes, en le pratiquant, quel est le monde qui nous entoure.
Bonjour, aujourd'hui nous sommes en direct de la fête de l'humanité qui se tient au parc Georges Valbon à la Courneuve.
Qui veut le micro ?
France Info.
Bonjour.
Bonjour.
Dans le micro, ma belle.
Ça va les jeunes ? Vous passez une bonne après-midi ?
Oui.
Alors moi je suis un travailleur ici, là, à la fête de l'humain. On est des bâtisseurs, en fait il y a marqué sur notre bracelet. On monte les stands, on prépare les cuisines, on prépare la fête de l'humain.
L'humanité ça veut dire quoi ?
Comment ?
L'humanité ça veut dire quoi ?
L'humanité, ben, déjà, c'est une définition de l'humain. L'humain, c'est après, on peut la définir aussi avec le partage, la différence des cultures, le mélange. L'humanité, c'est quelque chose qu'on partage chaque année ici, là, dans les stands. C'est une chose où on peut parler aussi de la politique de la ville, de la politique internationale. C'est un rendez-vous, en fait, des militants, des politiques, des jeunes, des grands. Voilà, l'humanité, c'est un peu tout ça, c'est de partager et de prendre soin de son prochain ou son voisin.
Comme merci. Tu t'appelles ?
Alors, je m'appelle Kaki, ici je suis surnommé Kaki, comme la couleur. Je viens de Gennevilliers, le 92, voilà. Et je suis ravi de vous connaître et
merci.
De vous accueillir, les jeunes. Bon courage à vous.
Nous sommes toujours en direct de la fête de l'humanité avec Fatoumata.
Qui veut le micro ?
Alors, ici on est où ? Alors essaye de dire où on est. Tu regardes où on est.
Société des Amis de l'Humanité. Alors c'est quoi ?
Alors la Société des Amis de l'Humanité, en fait c'est une instance qui s'est constituée pour soutenir un journal fameux que vous devez connaître qui s'appelle L'Humanité. Et qui a été fondé par Jean Jaurès. Il y a un collège d'ailleurs à Saint-Ouen qui s'appelle Jean Jaurès.
Exact.
Et donc, en fait, c'est des gens qui se sont rassemblés pour soutenir le journal.
Vous vous présentez ?
Je m'appelle Abdel Yassine, j'ai 36 ans et j'habite à Fleury-Mérogis dans l'Essonne.
Pourquoi vous travaillez ici, Abdel ?
Pourquoi je travaille ici ? En fait, moi, je suis bénévole aux Amis de l'Humain et tous les ans, donc avec Farid qui est le régisseur du stand et Charles Sylvestre qui est un ancien journaliste et auteur du journal de l'Humanité. Je participe à titre bénévole pour soutenir à la fois le journal, mais aussi parce que c'est un moment où on rencontre plein de gens différents qui viennent de toute la France, parce que là, vous avez vraiment dans cette fête l'avantage d'avoir des gens qui convergent à Paris. Et vous allez voir, il va y avoir en fait tous les gens qui sont, on va dire, progressistes. En fait, progressistes, c'est des gens qui pensent qu'il peut y avoir une société meilleure. Et du coup, c'est un temps où on se rencontre, on discute, on échange pour essayer, en fait, par la suite, de retourner chacun dans sa ville, dans son environnement et de se dire, bon, je ne suis pas tout seul. Il y a plein de gens qui luttent comme moi dans leur environnement. Et du coup, on se retrouve ici et on va dire ça nous redonne un petit coup de boost pour l'année à venir et pour affronter la situation qui n'est pas forcément évidente en ce moment.
D'accord, merci Abdel.
De rien.
En direct de la fête de l'Humain.
Bonjour Charles, depuis quand existe cette fête ?
Depuis 1927, je crois. Mais peut-être que je me trompe. En tout cas, à peu près autour de 1930.
Pourquoi elle a commencé cette fête ?
Parce que l'humanité, déjà à cette époque, avait des difficultés financières. Elle était menacée de s'arrêter, de fermer. Et donc, il y a des gens qui voulaient défendre l'existence du journal. Et donc, à l'époque, le directeur s'appelait Marcel Cachin. Et il a pensé que ce serait bien de rassembler les gens pour défendre l'existence du journal et que la meilleure forme, c'était certainement la fête. Ils avaient un casse-croûte, ils pique-niquaient. Voilà, il y avait déjà un petit peu des artistes, des accordéonistes. Mais Cachin, il faisait un discours pour dire pourquoi il fallait défendre l'existence du journal.
Alors, il a quoi de particulier ce journal de l'humanité ?
Alors, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il a été fondé par quelqu'un qui était socialiste, Jean Jaurès. Cette année, c'est le 100e anniversaire de l'assassinat de Jean Jaurès, le 31 juillet 1914. Jaurès, il était socialiste parce qu'à l'époque, le Parti communiste n'existait même pas. Mais dans les années 20, il y a eu la création d'un Parti communiste et le journal est devenu celui du Parti communiste. Donc, ça a été à l'époque déjà un journal communiste. Bon, aujourd'hui, c'est un journal. Bon, il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est un journal communiste, mais le journal pense qu'il n'est pas que communiste. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas journal communiste à la une, il y a le journal fondé par Jean Jaurès. Voilà. Son identité, c'est Jean Jaurès, son fondateur. Bon, et donc, ce qu'il a de particulier, c'est que c'est un journal qui ne défend pas les mêmes idées que les autres. Nous, on considère que la plupart des journaux défendent le système en place, c'est-à-dire un système capitaliste, où on dit aujourd'hui néolibéral. Eh bien, l'humanité défend d'autres idées et, par exemple, défend en général les luttes sociales. Les luttes sociales, c'est les luttes des salariés qui cherchent à mieux vivre, avoir un meilleur salaire, un temps de travail normal et tout. Bon, ça, c'est ce que défend l'humanité. Voilà. Donc, c'est le journal du côté du monde du travail et du côté aussi des intellectuels, des artistes, parce qu'on pense aussi que les intellectuels et les artistes apportent quelque chose à la société de très précieux. Donc, on dit qu'on est le journal de la pensée originale, pas conforme, pas conformiste, et le journal du monde du travail.
Bonjour, je m'appelle Angie et je voudrais poser une question. Qu'est-ce que ça veut dire communiste ?
Alors communiste, son origine, c'est que Karl Marx, avec Friedrich Engels, qui étaient deux Allemands, qui étaient des philosophes, en 1848, ils ont publié un manifeste qui s'est appelé le manifeste du Parti communiste. Ce qu'ils entendaient par là, c'est de révolutionner la société, qui était capitaliste déjà à l'époque, qui l'est encore aujourd'hui, et qu'elle a révolutionné en faisant en sorte que ceux qui possèdent les moyens de travail, les entreprises, comme on les connaît aujourd'hui, Veolia ou Schneider ou tout ça, eh bien ce soit ceux qui y travaillent, qu'en soient les propriétaires. Donc qu'ils s'associent pour posséder l'entreprise où ils travaillent. C'est pour changer la propriété privée des grandes entreprises et pour en faire une propriété sociale. C'est ça, en gros, la définition du communisme. Mais après, ça, c'est beaucoup compliqué parce qu'il n'y a pas que la propriété des entreprises dans le communisme. Il y a aussi, disons, toute une philosophie qui veut que les gens soient à égalité, qu'ils ne s'exploitent pas les uns les autres. Le communisme, c'est la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme. On a dit pendant longtemps que le communisme, c'était l'Union soviétique. Mais il y a des gens, dont je suis, qui pensent que ça a été une tentative d'instaurer le communisme en Russie, seulement elle n'a pas abouti parce que le communisme en Russie, il a été très autoritaire. Jean Jaurès, qui est un ancêtre pour nous, pour l'humanité, pour le communisme tel qu'on le défend aujourd'hui, c'est un homme qui disait que l'individu doit être libre. Sinon, ça ne peut pas appeler ça le socialisme ou le communisme.
Voilà quelques bases rappelées pour les collégiens du collège Joséphine Baker. Ella, Aïcha, Mehdi, Mohamed, Melvin, Fatoumata, Abdoulaye et Indy.
Je suis dissident bas, dissident France de l'âme. Je suis dissident moi, dissident haut en bas. Je suis dissident soi, dissident bouge de toi. Je suis dissident car dissident rouge de moi. Je suis dissident vie d'enfer jazzé, dissident délire de désir, dissident l'art, dissident dissonant blues blanc. Je suis dissident vie d'enfer fadé, dissident relire le plaisir, dissident bas, dissident dissipant bouge blanc. Je suis dissident bas, oui, sous parc chez Gay, dissident trace de là. Brrr, pas que je suis dissident noir, yala, oui, dissident freindre de là. Je suis dissident d'âge, dissident langue des bois. Je suis dissident gage, dissident gauche de toi. Je suis dissident France sauvage mentant, dissident courir le désir, dissident l'art, dissident disant blue blanc. Je suis dissident dans son créo, disant dissident s'offrir le plaisir, dissident va, dissident dyslexant, bouge lent. Je suis dissident nage, dissident zen dans base. Je suis dissident sage, dissident printe sauvage. Je suis dissident page, dissident crier gage. Je suis dissident siège, dissident torse d'enrage. Je suis dissident cage, d'enfer fugué, dissident respire le désir, dissident l'art, dissident dilatant. Blue blanc. Je suis dissident, ancien gascon cubain, dissident m'écrire de plaisir, dissident bas, dissident disculpant, bouge blanc.
Comme un bruit qui court en direct de la fête de l'humanité avec les amis de la compagnie Luba.
Merci
la
beaucoup.
La compagnie Luba augmentée de papanoches qui sont venus, qui sont aussi des habitués du Festival du Zest, un haut lieu d'éducation populaire par la musique.
Et on est toujours avec Franck Lepage pour parler de l'éducation populaire. Franck Lepage, je vous rappelle que vous êtes le propagateur des conférences gesticulées, que vous êtes un showman et un activiste et que vous allez partout en France pour raconter des histoires et faire réfléchir sur les rapports de force. C'est pas mal comme...
Oui, c'est bien, ça me plaît.
Ça vous plaît. Mais alors, vous êtes quand même gonflé avec toute cette histoire. Vous battre contre l'emploi, ne pas réduire les charges sociales, mais les augmenter, c'est de ça dont il s'agit ?
Exactement. Ce soir, c'est le réseau Salaria qui va... essayer de nous faire comprendre que le seul horizon crédible pour la gauche, c'est le salaire unique, c'est-à-dire à 18 ans, tout citoyen français a un salaire jusqu'à la fin de sa vie attaché à sa qualification. D'accord ? Et ça, ça nous fait sortir de l'emploi. Le type qui a théorisé tout ça, c'est Bernard Friot. Bernard Friot, je pense que vous le connaissez, puisque vous l'avez fait intervenir dans une émission qui s'appelait « Là-bas si j'y suis ».
Comment ?
Là-bas si j'y suis.
Ah, oui, tout à fait.
C'est une émission qui est tellement indispensable quand on a des premiers ministres qui aiment les entreprises que c'est la seule émission. C'est la seule émission qui c'est la seule émission qui donne la parole aux gens qui sont un peu malmenés par les entreprises, qui sont exploités par les entreprises. Et donc on va la récupérer cette émission évidemment. Vous rigolez ou quoi ?
Et d'ailleurs, vous pourrez les retrouver au stand de l'Humanité à 17h pour Là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet.
Il y a intérêt. Et alors, cette perspective, vous allez dire, mais c'est utopique. Pas du tout, c'est révolutionnaire. Vous savez ce que c'est la différence entre une utopie, une perspective utopique et une perspective révolutionnaire ? C'est que être révolutionnaire, c'est quoi ? C'est pas inventer un monde qui n'existe pas et qui n'existera jamais. Être révolutionnaire, c'est pousser dans le capitalisme ce qui est déjà anticapitalisme à l'intérieur du capitalisme. Et c'est ça que crée 45. Et c'est pour ça qu'ils veulent dézinguer 45. Parce que 45, je vous l'ai dit, c'est une bombe. 45 crée la cotisation. Tout le système hospitalier français que le monde entier nous envie. Comment on a construit les hôpitaux ? On n'a pas emprunté à des banques, on n'a pas demandé à des employeurs, à des propriétaires. On a créé une cotisation. Cette cotisation, il suffit de l'augmenter. Et donc, évidemment qu'ils veulent
baisser les charges sociales. Le seul mot d'ordre pour la gauche, c'est d'augmenter les charges sociales. Jusqu'à quand ? Jusqu'à 100% du PIB, c'est-à-dire qu'on ne fonctionne plus que sur une cotisation et que la totalité du salaire soit socialisée dans le salaire à vie. Alors moi, j'ai une définition du politique. Moi, je suis assez scolaire. Si tu veux, quand je lis des choses intelligentes, je les retiens. Et je suis tombé sur cette phrase magnifique. Le politique, c'est la désignation d'un adversaire. Et cette phrase, je la trouve géniale. Parce que quand j'entends Manuel Valls qui dit qu'il aime l'entreprise, j'aimerais qu'il me dise ce qu'il n'aime pas. Ça m'intéresse.
Mais François Hollande l'avait dit pendant la campagne, son ennemi, c'est la finance.
Exactement, son ennemi, c'est la finance, d'accord ? Alors moi, quand j'entends ça, eh bien, je sais que mes adversaires, désormais, c'est le Parti Socialiste.
Alors Franck Lepage, une petite question. Est-ce que l'éducation populaire est à la transformation sociale ce que l'éducation nationale est à la reproduction des élites ?
Vous avez 2 minutes.
Question bleue de Monsieur Antoine Chao. L'éducation populaire, c'est pas l'éducation du peuple. C'est le peuple, c'est-à-dire nous qui nous instruisons de nos différentes expériences. N'importe quelle infirmière actuellement en France qui est en train de subir une démarche qualité sait qu'il ne s'agit pas de qualité. N'importe quelle personne qui subit le management participatif dont ils ont parlé dans ton truc sait qu'on est en train de tuer la totalité des métiers en les transformant en des protocoles. Ce savoir-là, si nous arrivons à le socialiser entre nous, d'accord, c'est ça de l'éducation populaire, c'est de reconnaître que nous avons un savoir politique.
Merci beaucoup.
Merci Franck.
Alors on va continuer de parler d'éducation populaire à travers la rencontre d'une association qui militent depuis plus de 10 ans dans le Nord-Pas-de-Calais pour développer et promouvoir l'éducation populaire à travers des ateliers d'écriture. Cette association, c'est l'association Colère du Présent, au pluriel, dont le fer de lance est de rapprocher les personnes éloignées de la littérature, du livre et de l'écriture. Et c'est une association qui est notamment à l'origine d'une série de romans noirs, Les Aventures de Nour et Norbert, dont la particularité est qu'à chaque nouveau volume est écrit avec la participation d'un collectif différent. Donc, il y a eu les aventures de Nour et Norbert avec les mineurs marocains du Nord-Pas-de-Calais, avec le Secours Populaire, les Gaziers de France. Et là, le 9e volume des aventures de Nour et Norbert, qui est actuellement en cours de rédaction, a été conçu avec les demandeurs d'asile de la ville d'Arras. Et donc il faut savoir que les demandeurs d'asile, ce sont des personnes qui ont traversé des épreuves très difficiles, qui ont fui leur pays à cause de la guerre ou pour des raisons politiques, enfin parce que leur vie était en danger. Et une fois arrivés en France, l'attente pour savoir si la demande d'asile va être acceptée ou refusée est en général très très longue, environ 2 ans. 2 ans pendant lesquels ils n'ont pas le droit de travailler. D'où l'importance faite de ces ateliers d'écriture qui permettent de verbaliser la souffrance, mais aussi d'aller à la rencontre de l'histoire de la ville et de la région. Et c'est donc pourquoi on va partir à Arras, dans le centre d'accueil des demandeurs d'asile de la cité, dans une cité située dans la banlieue ouest de la ville, où actuellement 60 hommes isolés sont hébergés. Et c'est là qu'ont lieu les ateliers d'écriture de Colère du Présent, animés par son président, Éric Bellineau.
Arras, assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train. Pour la sortie, veuillez en parler de passage souterrain.
Bonjour.
Bonjour. Éric Bellineau, président de Colère du Présent. Alors moi je m'appelle Éric Bellineau, je suis président de Colère du Présent. J'ai repris mes études il y a 2 ans et j'ai fait un long stage au centre d'accueil des demandeurs d'asile. J'ai repris mes études à la suite d'une fermeture d'usine et c'était une ancienne usine de Ron Poulenc, la grosse boîte lyonnaise de textile qu'il y avait dans les années 60. Mais bon, je le sentais déjà et j'avais déjà franchi le pas. J'avais passé le concours, en fin de compte, pour faire la formation de moniteur éducateur.
Donc, ils sont en bas, ils nous attendent là. On a eu en voir monsieur.
Bonjour. Bonjour.
Ça va bien ? Donc, voilà. Monsieur Mbou dit René, dit aussi le général. Monsieur Eladj, Monsieur Mamadou Sylla, Monsieur Platini, et qui est venu avec sa femme. Et donc, il y a
des écrits déjà qui ont été faits pour montrer exactement leur parcours de vie et puis les premiers aboutissements de l'atelier d'écriture.
Il s'appelait Miguel. C'était un jeune Congolais d'une trentaine d'années.
Il s'appelait Biton. Biton avait 36 ans.
Il s'appelait Danny Bekao. Il était âgé de 18 ans.
Injustement arrêté, des militaires sous les ordres de M. Bikina avaient pour mission de mater, voire d'éliminer toute opposition au gouvernement.
Il exerçait la profession de secrétaire général de la mairie de Sobra, située à 100 km de Bamako.
Ibrahima qui essayait de s'opposer et d'empêcher les islamistes d'enlever son père. Ibrahima fut sauvagement exécuté devant ses yeux.
Vous vous appelez comment ?
Je m'appelle Mbou René Jacquier. J'ai essayé de rédiger un peu seulement. Je peux vous lire ça ?
Ah oui, là, c'est la première partie. Il s'appelait, vous avez tous ça sur la feuille.
C'est les consignes de l'atelier d'écriture. Il fallait changer donc les prénoms. Toujours commencer par « il s'appelait » et ils choisissaient un prénom. Et ils racontent leur histoire de vie. Et c'est vraiment la base du livre. Et pourront après lancer l'histoire qui est sur les demandeurs d'asile.
Du coup, vous êtes arrivé en France à Arras quand ?
Je suis venu le 12 novembre 2012. J'ai déjà eu mon statut.
Ça y est ?
Oui, ça fait 2 mois de cela. J'ai eu mon statut. Pour le moment, je commence à chercher un logement, chercher du travail. Peut-être un travail de manutentionnaire, un travail d'ouvrier de bâtiment. Peut-être ça, mais pas d'autre.
L'horreur avait commencé en 2002. Les rebelles avaient envahi Sibut et s'étaient installés sous les ordres de leur chef François Posissé. Posissé, Alphonse, n'était pas prêt à oublier ce nom. Un nom d'être humain qui pourtant n'avait rien d'un être humain. Posissé, c'était plutôt une bête féroce, sans scrupules, sans sentiments. Dès leur arrivée dans le camp, Alphonse et ses compagnons furent déshabillés et jetés en slick dans une auge à cochons, remplie de merde et de boue. Ils furent battus jusqu'au sang, à coups de crosse de fusil et de matraque. Matraque faite de nerfs de bœuf et de fils de fer. Ils furent battus ainsi toute la nuit jusqu'au matin. Ils n'avaient plus de peau. Leur cri de douleur avait encore plus assombri la nuit.
C'est moi qui avais écrit ça pendant la télé d'écriture.
Enfin, ça vous a apporté quoi ? Enfin, ça vous apporte quoi d'écrire ? Vous aviez l'habitude d'écrire avant ou...
C'est la première fois. C'est la première fois que c'est Monsieur Eric qui nous a appris à faire. Donc, on a commencé mollo, petit, petit.
Voilà. C'est vraiment la première partie. C'est pour planter le décor. Là, on a entamé la légende. Il va y avoir des disparitions et les demandeurs d'asile vont se poser des questions. Ils vont parler de leur légende africaine pour essayer de dire « Ah oui, mais il a disparu peut-être pour ça, pour ça, pour ça. » Et puis l'intrigue, ben, je peux pas la révéler. Mais Nour va mener l'enquête et puis elle va la résoudre.
Merci beaucoup.
Et donc, vous pouvez écrire l'histoire de l'homme invisible et puis des Nigériens. Et puis je le prendrai, je le donnerai et on mettra votre nom dans le livre aussi. Voilà.
Là, Eric, on a quitté la cité où il y a le cadavre. Et on va où, en fait ?
Et là, on se dirige vers le centre-ville d'Arras où on va rencontrer un éducateur formateur qui est à l'origine vraiment de l'éducation populaire de Colère du Présent. C'est Didier Andro, oui. C'est l'ancien président de Colère du Présent. C'est vraiment le nerf de bœuf de Colère du Présent, l'éducation populaire, où on essaye de vraiment donner la parole à tous les gens éloignés de la lecture et de l'écriture. On va aller le rencontrer dans un bistrot.
Bonjour. Bonjour.
En fait, c'est né dans un bistrot, Colère du Présent. On était avec un écrivain. Puis un soir qu'on était bourré dans un café, on s'est dit, tiens, on pourrait faire un concours d'écriture. Alors voilà, et plus on buvait de bière et puis plus on sortait des âneries. Et puis à un moment donné, on s'est dit, tiens, on pourrait aujourd'hui, dans la région, comme dans plein d'endroits, il y a plein de raisons d'être en colère. Il n'y a rien de pire que les colères rentrées. Écrivez vos colères du présent. Et on a lancé un concours d'écriture sous la forme d'un cabaret littéraire dans un troquet, dans les caves d'Arras. Là. Et on a eu la surprise d'avoir 80 personnes qui, pendant 2 heures, ont tous pris la parole. Et la première année, on a eu 20 textes. On a eu cette idée de piquer l'idée du poulpe. Sauf que là, l'idée, c'était pas de, que ça soit des auteurs différents à chaque fois, mais des collectifs d'écriture à chaque fois. Et cette histoire de Nouré Norbert qu'on a inventée avec l'idée de... L'idée forte, c'est quand même que la classe ouvrière raconte l'histoire de la classe ouvrière pour la classe ouvrière. Nouré est petite-fille de mineur marocain. Norbert est petit-fils de mineur franco-polonais. Et les deux grands-pères de ces personnages-là ont fait toutes les grandes luttes sociales des mineurs, de la grande lutte des mineurs de 1941 face à l'envahisseur nazi, jusqu'à la fermeture des puits. Et les deux grands-pères, ils ont disparu dans des circonstances troubles. Et donc les petits-enfants se lancent à la recherche de ce qui s'est passé. Ça, c'est un peu l'intrigue de départ. Et de collectif en collectif, avec les gens, on travaille sur faire à la fois remonter des petites histoires des gens et de la croiser avec la grande histoire. Et donc, on continue à porter haut et fort et fier la flamme de l'éducation populaire dans le cadre de la formation des travailleurs sociaux, ce qui est de plus en plus compliqué.
Pourquoi c'est de plus en plus compliqué ?
Bah parce que, si vous voulez, il y a deux conceptions du travail social. Est-ce que le travailleur social, il est là pour gérer les pauvres et faire en sorte qu'il ne fasse pas trop de vagues ? Ou est-ce qu'il est là pour accompagner les gens, pour les aider bon, à sortir de leur situation, mais pour aussi œuvrer à la transformation sociale ? Donc, est-ce qu'il est un agent au service du maintien de l'ordre ? Ou est-ce qu'il est un acteur au service de la transformation sociale ? Alors ça, c'est tout un débat. Et hélas, nous sommes ultra minoritaires à défendre l'idée que les travailleurs sociaux doivent être des acteurs au service de la transformation sociale et donc de faire de l'éducation populaire, de leur filer des outils pour qu'ils prennent en charge leurs propres affaires et collectivement défendent leurs droits et en revendiquent des nouveaux. C'est ça faire de la politique pour moi. Être de gauche, c'est ça. C'est pas de délire à Mickey là, tous les 5 ans qui va essayer d'être plus gestionnaire que les gestionnaires. Je suis en colère depuis des années, depuis tout le temps je suis en colère.
Il s'appelait Miguel, il s'appelait Dani Becao.
Nous, elle avait décidé de revenir à ses premiers amours.
Il s'appelait Vuitton.
Ce qu'il nous faut, des idées qui rassemblent, se retrouver ensemble, on ne sera jamais trop. Ce qu'il nous faut, se servir de la fête pour se remplir la tête et se tenir au chaud. Ce qu'il nous faut, se remettre à la tâche, combattre sans relâche, démasquer les connards. Ce qu'il nous faut, libérer les cervelles, pour rendre la vie belle, penser à nos minots.
No, 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 no. Oi, 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 si es a la batalla. Oi, 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 pueblo lumacía. Oi, 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 canto que está mucho.
Un risque pris par l'homme envers lui-même, avec son malheur, et son bonheur, que lorsque la liberté pouvait déserter le monde, il resterait toujours un homme pour en rêver.
Comme un bruit qui court en direct de la fête de l'humanité avec Franck Lepage et Bernard Lubat. Alors juste avant, vous avez bien entendu Didier Andraud, donc président du Colère du Présent, qui est très remonté notamment contre la façon dont les écoles de formation d'éducateurs n'apprennent non pas à faire de l'éducation populaire, mais à gérer les pauvres. Et alors, c'est ce qu'on abordait plus tôt avec le reportage dans le MEDEF, gauche officielle, MEDEF, même combat.
Bernard Lubat, il y a aussi des ateliers d'écriture à Uzest, notamment avec le groupe français d'éducation nouvelle. Mais comment ça se passe à Uzès ? Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de musique aussi. C'est quoi le chant ?
C'est le laboratoire. C'est ce qu'on voulait faire, c'est en le faisant qu'on le découvre. Autrefois, hier, aujourd'hui encore, on nous disait « Tant que tu ne sauras pas jouer, tu ne joueras pas ». C'était l'éducation, ça se passait encore un peu comme ça. À Uzès, on joue d'abord pour savoir qui, comment et avec qui apprendre. Moi, c'est un renversement dialectique. C'est toujours une histoire de mots aussi. Que les mots sont des masques qui n'ont rien à cacher. Donc, il fallait voir là derrière qu'est-ce que ça veut dire l'engagement. Comme l'autre qui dit, j'aime l'entreprise. Moi, personnellement, j'aime l'entrecôte. Entrepote.
Entre potes.
Après, ça serait intéressant de savoir ce qu'ils appellent l'entreprise. Pour moi, l'entreprise, c'est beaucoup de gens. C'est un ensemble de conversations. C'est pour ça qu'à Uzest, on a inventé le conversatoire. Non pas que le conservatoire soit inutile, mais sans le conversatoire, le conservatoire s'ennuie le dimanche.
Ça devient une conserverie.
Voilà. Non, mais c'est bien de conserver, parce qu'il y a des choses magnifiques dans notre histoire de l'art. Mais aujourd'hui, l'histoire de l'art continue, et l'histoire de l'art, c'est de plus en plus les gens. Donc, à Uzest, on a inventé comme ça, sans le faire vraiment exprès, mais on a pratiqué d'abord pour savoir quoi, comment apprendre. Mais ça, c'est un peu l'histoire du jazz. Le jazz, ça vient d'une révolte, d'une rébellion, d'une résistance, d'une bande de ratés qui se sont inventés par eux-mêmes un langage en trafiquant l'Afrique, l'Europe, en se servant de tout ça. Ils ont inventé un récit. Et donc, ils l'ont inventé, c'est un récit oral qui peut s'écrire, mais ce n'est pas tellement le but, parce que ça change tout le temps. Donc, Uzest, c'est un commencement qui n'en finit pas. J'espère que ça va durer, parce que ça fait 37 ans qu'on n'y arrive pas. Alors, il faut qu'on continue comme ça, à réfléchir, à devenir, à se perdre. Et donc, l'improvisation, ça aussi, c'est très important, parce que c'est un peu comme un feu d'artifice. On existe parce qu'on disparaît. On remet ça, quoi. Voilà. Ça s'appelle le désir, quoi. Et quand le désir laisse à désirer, eh ben, le besoin use à besogner. Voilà. Donc, du plaisir, du ludique aussi. On le fait beaucoup avec les enfants. Hein. Ils nous apprennent beaucoup de choses, les enfants.
Il y a les ateliers avec eux.
Oui, beaucoup. Ouais. Oui, parce qu'avec eux, on a découvert des usages fondamentaux avant les notes de musique et bien avant l'instrument. L'instrument de musique est devenu alors un processus de commercialisation éhonté. Alors les festivals partout sont des expositions de technologie avec des sonorisations géantes comme ici hein, pour la scène centrale et d'autres avec des éclairages à chier partout, des guitares qui brillent, des batteries géantes, enfin tout ça, ça en fout plein la vue. Donc on a réfléchi comment se passer de tout ça. On a trouvé que la table, assis à table avec les pieds et les mains, on pouvait faire ce qui est le fondamental du discours, c'est le moyen de transport, le rythme. Quoi. Le rythme dans l'espace et dans le temps. Quoi. Voilà. Articuler. En plus, cette indépendance des membres, c'est pas mal, hein, l'indépendance des membres, ça fait réfléchir entre les mains et les pieds. Et donc, jouer comme des pieds, il n'y a pas mieux pour apprendre à marcher.
Et Uzest, c'est aussi un laboratoire radiophonique, d'accord, où une radio, Radio Uze, œuvre depuis des années. Et donc, c'est justement Radio Uze qui est devenue une radio nomade et qui est allée faire d'autres aventures et semer d'autres aventures d'éducation populaire à Arles notamment.
RMLL, Réunion mondiale, logiciel libre,
102.9.
Hola, c'est la Radio des Sud.
Je m'appelle Zakaria, j'ai 16 ans.
Samianti à la Radio des Sud de 102.9.
La Radio des Sud sur 102.9.
RMLL.
On est à Montpellier en face de RMLL qui signifie Rencontre mondiale du logiciel libre.
Alors je suis Crypti et je suis bénévole à la Free Software Foundation Europe. C'est une association européenne qui a comme objectif de promouvoir les logiciels libres au niveau européen.
Et nos téléphones, ils sont libres ou pas?
Ça dépend. Il y a plein de smartphones aujourd'hui. Parmi les smartphones disponibles, il y a les smartphones Android. Le système d'exploitation, c'est du logiciel libre. On peut le modifier, on peut le repartager. En vérité, quand vous achetez votre téléphone, il y a un certain nombre d'applications qui sont fermées, qui vous sont imposées et que vous ne pouvez pas enlever. Par exemple, les applications de vos autres opérateurs ou les applications que vous a imposées Google ou celles du constructeur du téléphone. Au sein de la FSFE, on a une compagne en ce moment qui s'appelle Libérer votre Android, qui vous permet justement de pouvoir remplacer le système d'exploitation Android par un autre. Et puis, pour remplacer les applications fermées, il y a un dépôt qui s'appelle F-Droid, qui est une application que vous pouvez installer sur votre téléphone et qui vous donne accès à tout un tas d'applications libres pour votre téléphone Android. Vous pouvez aller en saleté 001 et il y a un développeur d'un système d'exploitation libre alternatif et un des développeurs de F-Droid qui pourront vous aider à regarder ce que vous pouvez faire pour libérer votre téléphone.
Ok, merci beaucoup. Direction
celle de TD.
Celle de 001.
Comme un bruit qui court sur France Inter.
Allez hop, sortez vos téléphones. Voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 téléphones.
Paul Koselkowski, je suis donc le développeur principal du projet Replicant, qui est un dérivé entièrement libre d'Android. En fait, ce qu'on propose ici, dans l'atelier pour libérer son Android, c'est justement d'installer des logiciels qui sont dits libres et qui, en fait, donnent toutes ces libertés de pouvoir comprendre, d'accéder au savoir, mais aussi de pouvoir modifier et partager avec sa communauté à la fois les logiciels et les modifications qu'on y apporte. Il y a un contrat légal quand on utilise n'importe quel logiciel qui, en fait, donne des restrictions. C'est vraiment des questions de savoir, en fait, est-ce qu'on a vraiment le contrôle du logiciel ou est-ce que c'est finalement le logiciel qui a le contrôle sur nous. Et puis, il faut aussi savoir que rien que l'opérateur de téléphonie mobile a accès à nos appels, aux messages qu'on envoie, à notre position. Et ça, en fait, c'est des questions qui ne seront pas résolues par vraiment de la technique. C'est des questions politiques. Donc, sur le côté vie privée, en fait, le logiciel libre, c'est une amélioration, mais ce n'est pas franchement une solution voilà, au sens propre. C'est pour ça que finalement, quand on a des individus qui sont dans des situations vraiment de vie ou de mort, où c'est là très important pour eux d'avoir de la sécurité, on recommande généralement plutôt de ne pas utiliser de téléphone portable parce qu'il n'y a pas de solution technique vraiment fiable. Après, on peut avoir des améliorations de la situation en utilisant du logiciel libre, donc c'est ce qu'on propose pour justement libérer ces téléphones. C'est toutes ces notions-là, en fait, de liberté, de valeur et de droit de l'homme qu'il y a derrière.
Comme un bruit qui court.
C'était la Radio des Suds, donc une radio qui existe tous les ans depuis une dizaine d'années maintenant pendant le Festival des Suds à Arles. Et là, on était en reportage donc aux rencontres mondiales du logiciel libre qui était à Montpellier au mois de juillet, début juillet. On va écouter un peu de musique avec nos amis de Papanoche qui sont venus, qui accompagnaient, là, qui soutenaient et qui sont des fervents aussi musiciens de l'école usestoise. Papanoche, c'est quand vous voulez.
mercredi prochain à 16h sur France Inter. Merci à France Info de nous avoir accueillis dans ces studios à la fête de l'humanité.
Si vous nous entendez encore, sachez que c'était Jérôme Chélius à la réalisation, assisté de Karen Deshaies. Benjamin Thuot et Yann Turc étaient à la technique aujourd'hui. Et vous, Franck Lepage, on vous retrouve quand alors ?
À 20h30 ce soir sur le stand de l'ANECRE, l'Association Nationale des Élus Communistes et Républicains. Il n'y a que 250 places, j'espère que les 200 000 visiteurs ne viendront pas.
Et on trouvera Bernard Luba à la fête aux Amis de l'Huma à 20h pour un concert avec Michel Portal et Sylvain Luc. Aussi un grand bal avec des invités à partir de 21h toujours aux Amis de l'Huma. Et demain sur la grande scène, les grandes bouches pour le grand bal républicain avec comme invité spécial Daniel Mermet qui reprendra des textes de Jaurès en direct sur la grande scène. Et on pourra le retrouver aussi à 17h à côté sur le stand des Amis de l'Huma. Juste après le flash, Si l'Amérique m'était comptée de Colin et Mauduit nous emmène aujourd'hui sur la route 66 et nous on vous dit à l'année prochaine à la fête de l'Huma, bien sûr, toujours.